combat pour la foi, nous avons fait remarquer que la foi, il s'agit du contenu.
Ici, donc, le combat, c'est de rester fidèle à l'Écriture, rester sans écart par rapport à ces révélations qui nous sont données dans toutes les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, et de lutter pour y rester tout près fidèle, n'est-ce pas? Parce que les dangers, on avait vu, verset 4, hein, il y a des gens qui s'infiltrent dans l'Église et qui ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Et nous en sommes là, donc vous avez votre petit document. Nous allons voir aujourd'hui donc les faux docteurs, comment Jude les décrit. Donc je vous ai mis un peu comment je vois le passage. Nous allons parler de leur hérésie, le verset 4. Et deuxième point, nous allons parler de la certitude de leur jugement à venir. L'auteur va s'appuyer sur, je dirais, deux arguments très forts concernant le jugement dans le passé qui nous assure qu'ils seront jugés dans l'avenir, n'est-ce pas? Et prophétiquement, ce jugement futur a été annoncé depuis longtemps. Troisième point, nous allons parler de la description des faux docteurs par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils sont. C'est le plan un peu ce que je vous propose aujourd'hui. Donc nous allons voir rapidement donc que leur hérésie, c'est changer la grâce de Dieu en dissolution. Ça, et ça, c'est condamné par Dieu. Regardons dans l'épître que nous venons de lire. Maintenant, le premier argument, que cet acte n'est pas passé comme cela sans jugement devant Dieu. Il va faire référence à des situations, trois exemples de jugement dans le passé. Verset 5. Il dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Voyez? Donc, ça fait référence, si vous voulez, à Nombre, chapitre 14. Vous pouvez noter là, j'ai fait une erreur. J'ai mis Nombre 13, verset 14, mais vous pouvez mettre Nombre 14, verset 22 à 38. Ça fait référence à des événements aussi cités dans Exode 12 en entier. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 10, versets 5 à 10. J'aimerais juste qu'on regarde un des événements qui a attiré le jugement de Dieu pour ce peuple. Dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir. 1 Corinthiens 10, versets 10 et 11. Je prendrai juste cet exemple parce que ça nous touche directement l'application. Donc ici, vous pouvez compléter argument numéro 1, jugement divin dans le passé. On parle des deux I, donc les Israélites incrédules. Vous pouvez compléter les Israélites incrédules. Donc je fais référence à ce que nous écrit Paul en résumant plusieurs événements vécus par ce peuple dans le désert après avoir sorti d'Égypte. Nous lisons verset 9 même, je commence. « Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Rappelez-vous que les peuples, à un moment, donc, sont murmurés de quoi? De la faim, du pain, de l'eau. Et ils ont murmuré contre qui? Voilà, Moïse et Dieu. En fin de compte, c'est Dieu qui voulait toucher directement, mais il passait par Moïse, qui était désigné par Dieu pour les sortir de l'Égypte. Et Paul tire une application de ces murmures. Il dit, ça c'est une instruction pour nous aujourd'hui, parvenus à la fin des siècles, que nous ne devrions pas murmurer comme eux. Donc vous voyez, il y a des plaintes dont Dieu ne laisse pas passer. Les plaintes contre ce qui est décrit comme des murmures, comme si Dieu ne prend pas soin de nous, ne pourvoit pas à ce que nous avons besoin, et nous murmurons assez souvent comme eux aussi dans sa direction de notre vie quand il y a des choses que nous comprenons pas, des choses que nous n'acceptons pas. Ici, l'exemple de ce peuple nous montre que Dieu ne laisse pas passer cela sans son jugement. Et vous voyez ici, il y avait le serpent qui tuer ceux qui murmuraient, mais Dieu a pourvu par sa grâce, sa miséricorde, le salut qu'on a été vu par ce serpent qui est désigné dans le Nouveau Testament, que par la foi, si on regarde à ce serpent, le type de Jésus-Christ sur la croix, nous serons sauvés de même qu'ils étaient sauvés de la piqûre de ces serpents. Hein, c'est un type annonçant l'œuvre de Christ plus tard qui est dit dans l'évangile de Jean concernant cet événement. Donc ça c'est une des choses. Deuxièmement, exemple de jugement, je veux m'étaler un tout petit peu. Regardez verset 6, hein, parce que ce verset est très troublant. Je ne sais pas si en lisant ça vous a interpellé. Hein, il fait périr les incrédules. Et ici, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc ici, ce verset 6, l'auteur Jude va faire référence à Genèse, chapitre 6, verset 1 à 7. Est-ce qu'on peut revenir là, s'il vous plaît, Genèse, chapitre 6, verset 1 à 7. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que cet événement, vous vous rappelez de cet événement dans Genèse 6? Je vais lire surtout à partir du verset 4 jusqu'à verset 7. Quelqu'un peut le lire pour moi? Genèse 6, verset 4 à verset 7. Donc ici, il parle de quoi? Dans Jude, je vous ai dit le verset 6, je lis dans la version d'Arbi, qu'il a réservé dans les liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorre, et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication de la même manière que ceux-là. Il parle de qui ici? De ceux-là. Et étant allés après, auprès d'une autre chair. C'est troublant. Jude parle de qui? Il fait allusion à l'événement dans Sodome, et les gens de Sodome, il dit, fais la même chose que ceux-là. Mais qui sont ceux-là dans le verset 6? Les anges. Et les anges, nous lisons dans Genèse 6, ici appelés les fils de Dieu, furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui sont les fameux dans l'Antiquité. Donc ici, moi personnellement, je suis convaincu, donc vous pouvez vérifier dans 2 Pierre 2,4 aussi, nous avons lu ça la dernière fois, qu'il faut voir toujours 2 Pierre en parallèle avec Jude, parce qu'il parle du même événement. Mais ici, il parle donc des anges qui ont rompu, si vous voulez, l'ordre établi par Dieu dans la création. Il y a des choses que Dieu a établies telles qu'elles sont, et si on rompt cet ordre, ça engendre des conséquences. Et ici, quelle est la conséquence donc des anges? Ne se sont pas restés dans leur état, leur demeure, comme ils devraient être des anges. Ils se sont venus, je suppose en prenant des formes humaines, ces anges, et commis des relations sexuelles avec des filles des hommes. Et qu'est-ce qu'ils sont nés de cette relation?
Des géants.
Des géants. Oui. Quand l'ordre est créé par Dieu, les anges, c'est dans l'ordre des groupes des anges, les hommes, création des hommes, les animaux, etc., c'est des ordres établis par Dieu tel qu'il est. Mais quand il y a un mélange entre ces choses-là, alors là, ça crée quelque chose de bizarre. Et c'est le signe du jugement de Dieu. Ici, donc, ça crée des géants. Et il me semble que ces géants n'existaient pas seulement à l'époque avant le déluge, mais ils existaient un peu plus tard aussi. Rappelez-vous, quand on a la conquête de Canaan, regardez par exemple Nombre chapitre 13, verset 33. Et c'est donc à chaque fois que l'ordre établi par Dieu est rompu, en signe de jugement, va naître quelque chose de bizarre. Et ce qui est passé ici, les anges ont commis fornication, si vous voulez, avec la fille des hommes, et donc nés de ce lien des géants. Et ces géants ne sont pas seulement nés ici, mais peu plus tard, dans Nombre chapitre 13, verset 33, nous verrons aussi en Canaan des géants. Vous pouvez lire Nombre 13, verset 33. Et même je lis à partir du verset 32, j'ai oublié. Ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, ce sont des hommes d'une haute taille. Et un peu plus tard, nous verrons encore ces géants. Dans 2 Samuel, par exemple, chapitre 21, verset 29, vous pensez à qui?
Goliath.
Et ses frères. Regardez 2 Samuel 21, 29. 21, 20, excusez-moi. Voilà, vous voyez, c'est bizarre. Un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Et 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha. Bon, c'est ce que je vois, d'accord? Mais ce qui est important, qu'y a-t-il le jugement de Dieu, c'est d'avoir rompu l'ordre établi par Dieu dans la création. Et ça, c'est important. Et jamais vous avez vu dans l'Ancien Testament, il est dit concernant ces gens qui ont commis la fornication, qu'ils étaient liés dans des chaînes, dans des endroits donc, qui attendent le jugement de Dieu. Nous le voyons à la lumière de ce qu'écrit Jude, mais le Fils de Dieu ici, il n'est jamais question dans l'Ancien Testament que ces anges-là qui ont commis ces fornications sont liés, enchaînés. Alors, qu'est-ce que nous apprend le Nouveau Testament ce matin? Quand on a lu un passage, Matthieu 15, que David avait lu, cette femme cananienne, dont est l'enfant qui a été possédé par des démons. Les démons, ils étaient en action dans la société à l'époque de Jésus. Mais tandis qu'ici, ces genres de démons ici, ils étaient enchaînés, ils attendent leur jugement. Et l'Ancien Testament ne nous parle jamais de cette catégorie d'anges. Et dans le Nouveau Testament, on voit quand même qu'il y a d'autres anges, qui sont les démons, qui agissent, comme nous l'avons vu ce matin. Marc chapitre 1, par exemple aussi, on vous rappelle, les démons qui reconnaissent même que Jésus est le Christ. Je ferme la parenthèse, mais ce qui est important ici, c'est que quand nous pervertissons l'ordre établi par Dieu dans la création, ça engendrera des conséquences qui attirent son jugement. Exemple, Romains chapitre 1, l'homme qui a perverti la relation sexuelle entre un homme et une femme, mais maintenant entre un homme et une femme et une femme, Dieu les a livrés dans leur penchant. Romains chapitre 1 nous est décrit cela. Vous voyez? Donc il y a des ordres établis et le jugement de Dieu, c'est dans ce sens qu'il nous laisse aller là où nos cœurs veulent y aller. Ici, on voit aussi par ces anges que Dieu ne laisse pas passer de telles choses. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est ce que je vois. Il y a d'autres commentateurs dans les commentaires même sur la Bible qui ne voient pas les fils de Dieu là comme les anges que dit Jude. Moi, je le vois. Jude fait référence à ce qui est là parce qu'il n'y a pas d'autres passages qui expliquent cela. Mais ce qui est curieux, c'est que ça engendre ces géants, et ces géants, on le voit. Si vous avez remarqué, je suis passé sous silence. Dans Genèse, il était dit quand même qu'il y avait déjà des géants, n'est-ce pas? Mais d'après le commentaire que j'ai lu, apparemment le mot, quand ils furent allés chez les filles des hommes, le mot hébreu, ceux qui connaissent l'hébreu peuvent le confirmer, c'est un accent répétitif d'après ce que j'ai lu, c'est que à chaque fois que les fils de Dieu vont voir les filles des hommes, ça donne naissance à des géants. Le mot hébreu, apparemment, ceux qui l'y connaissent, donc, peuvent vérifier, c'est une action répétitive. À chaque fois qu'ils viennent, ça crée des géants. D'où, on voit dans la Bible les traces, en Canaan, après au temps de David, comme nous l'avons vu juste à l'instant. Maintenant, verset 7. Verset 7, deuxième exemple de jugement de Sodome. Donc, vous pouvez mettre pour le verset 6 les anges qui ont commis la fornication. D'accord. Verset 7 maintenant, le jugement de Sodome, de Gomorre, de Tseboïm et d'Adama. C'était les villes aux alentours de Sodome et Gomorre. Pourquoi ils étaient jugés, à votre avis? On peut regarder Genèse, chapitre 19, versets 23 à 29. Ce troisième verset 7 fait référence à l'événement qui s'est passé dans Genèse 19. Jude, donc, fait référence à cela. On peut lire versets 23 à 29. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot, regardant en arrière, elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Il fait échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Juste quelques passages avant, au début du chapitre 19, vous allez voir, verset 4, quand il y avait les visites de ces anges et ici, il y avait les gens de la ville, verset 4, il est dit, lorsqu'ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, Genèse 19, verset 4, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au veillard. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Hein, vous voyez le terme ici, pour nous les connaissions, c'est pour faire des actes sexuels immoraux envers ces gens-là. L'homme sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Hein, après, vous lisez la suite de l'histoire. Et Dieu, à cause de cette méchanceté des hommes de Sodome et Gomorre, hein, fait subir le jugement. Et Jude, je vous ai lu le verset 7 tout à l'heure. Je reviens dans Jude, chapitre 1, verset 7. Comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour, donc en parlant de Tsoboam et de Adama, s'étant abandonné à la fornication, vous voyez, de la même manière que ceux-là, on vient de voir les anges, étant allés après une autre chair. Et là, c'est important, c'est bien clair dans la version d'Arby, une autre chair, autre, dans le grec, il y a deux mots pour autre. Soit alors, ça veut dire quelque chose de même nature. Vous prenez une pomme, vous pouvez avoir une autre pomme, hein, mais c'est des pommes. Tandis que autre, il y a le mot hétéros, et ici, si vous avez le grec, c'est bien le hétéros, ça veut dire une autre chair. Donc, c'est pas des humains, mais ici, d'après les commentateurs, des animaux même. Et ça, c'était commis en Sodome et Gomorre. Et c'est pour ces relations où les hommes ont brisé l'ordre établi par Dieu, où les hommes ont commis de l'homosexualité et des actes avec des animaux, subi les jugements de Dieu, et nous venons de lire cette destruction de Sodome et Gomorre. Et vous savez, pourquoi Jude parle de cela? C'est pas loin, parce que nous avons toujours mis en esprit que l'épître de Jude s'accomplissait vers les 60 dernières années, 60 dernières années du 1er siècle. Mais on avait dit que ça nous touche, pour nous, l'accomplissement aussi dans les derniers temps. On y est aujourd'hui. Et vous savez, vers les années 60, en Europe, tout le monde le sait, la libération sexuelle et l'éthique, maintenant dans la société occidentale, est complètement pervertie par rapport à l'éthique biblique, où les hommes s'abandonnent à l'homosexualité et libres de vanter leur choix de vie même pour ce type de pratique. Vous voyez. Et cela, depuis cette époque, donc, cette perversion est propagée et ça attire le jugement de Dieu. Et revenons maintenant, pourquoi Jude parle de ces trois arguments dans l'Ancien Testament? Pour assurer que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament, si je peux exprimer ainsi. Dieu ne change pas. Et les jugements passés nous confirment et nous assurent, nous pouvons faire confiance. Ça sera pareil pour le jugement futur aussi. Et ces exemples sont là pour dire que Dieu ne laisse pas passer. C'est grave à ses yeux et ça doit être à nos yeux pareil aussi. Donc c'est une lettre d'actualité pour nous, cette épître de Jude. Maintenant, l'argument numéro 2. Donc l'argument, premier argument, en se basant des jugements passés pour confirmer le jugement futur pour ceux qui aujourd'hui abandonnent l'autorité de la Bible, nous avons dit, et l'autorité des Écritures saintes. Argument numéro 2, j'ai dit jugement futur annoncé prophétiquement. Regardez verset 4. Là aussi, c'est important à souligner le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Qui sont ces hommes? Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement ou dissolution. Et autre chose, renie notre seul Seigneur, Maître Jésus-Christ. Là, c'est compliqué à expliquer. Pourquoi? Parce que quand on vous dit « dont la condamnation est écrite depuis longtemps », moi, je ne crois pas à cette théologie qui dit que l'homme n'a pas son choix. S'il a été destiné à être condamné, ben, quoi qu'il fasse, il sera condamné. On peut interpréter comme ça, n'est-ce pas? C'est pas ça qui est enseigné ici. Parce que par ailleurs, la Bible ne se contredit pas. La Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous laisse le choix, mais Dieu ne choisit pas quelqu'un qui va être sauvé et quelqu'un qui va être déjà destiné à être condamné, n'est-ce pas? Et donc, comment comprendre ça ici? Moi, je le comprends ainsi. Regardez bien le verset 4. Hein. Il parle « dont la condamnation est écrite depuis longtemps ». Il parle de qui, là? Cette condamnation est écrite depuis longtemps. Regardez, je pense qu'il fait allusion à Jude, verset 14 et 5. 14 et 15. C'est aussi pour eux, donc pour ces apostats, ces faux docteurs, qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. Donc vous voyez, Enoch a vécu avant le déluge. Enoch voyait déjà la venue en gloire du Seigneur, la seconde venue ici. Vous voyez bien, venue avec ses 5 myriades, ça parle de la seconde venue de Christ qu'on nous attendons. Pour exercer un jugement contre tous, il voit aussi le jugement des impies à venir, ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, comment comprendre? Moi, je le comprends ainsi. Dans quel sens comprendre que dans la condamnation écrite depuis longtemps, moi, il fait référence à ce verset 14 et 15 pour dire tout simplement que ces jugements étaient déjà écrits, mais non pas dans les saintes écritures. Là, je parle ici donc de ce qu'on appelle le livre pseudépigraphe. Je vous ai fait part de cela à l'introduction, que dans le judaïsme, il y a beaucoup d'écrits ont été faits et qui sont connus et souvent des faits exacts connus dans le judaïsme. Et par exemple, le livre pseudépigraphe, ça veut dire des livres dont l'auteur est faux et tout simplement des faux prophètes de l'époque qui essayent de faire en sorte, mettre des noms très connus dans l'Ancien Testament pour faire accepter les écrits qu'ils donnent. Et dans ces écrits ici, ils parlent des jugements à venir qui concernent lors du retour de Jésus-Christ. Et je parle de la condamnation écrite depuis longtemps. Donc ici, je pense qu'il va faire allusion à ce que versets 14 et 15 dit. Donc c'est à cette citation d'Enoch. Et cette citation a été transmise par écrit. C'est pour ça que c'est inscrit. Mais inscrit dans quoi? Inscrit non pas encore dans les saintes écritures, mais il sera inscrit dans les saintes écritures quand Jude l'inclut dans le canon du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous me suivez. La condamnation est écrite depuis longtemps, ça veut dire, il fait allusion à cette citation de Enoch que nous venons de lire, qui est écrit donc ce message, mais qui autrefois n'était pas encore fait partie des saintes écritures. Et pour cela, il ne dit pas inscrit dans les écritures, hein. Inscrit depuis longtemps tout simplement. Parce que dans le milieu du judaïsme, il y a beaucoup d'écrits, comme je vous ai dit, et ça ne fait pas partie des écritures, les livres pseudépigraphes. Mais Jude, maintenant nous l'avons dans le Nouveau Testament, fait usage de ces écrits en citant le livre d'Enoch ici. Et il est maintenant inclus dans le canon du Nouveau Testament. Donc inscrit depuis longtemps, mais maintenant inclus dans le canon du Nouveau Testament. Et donc, pour dire que le jugement va être aussi confirmé dans le futur pour ces gens qui ont abandonné l'autorité de la parole de Dieu et l'éthique donnée par Dieu concernant la sexualité qui est uniquement réservée dans le cadre du mariage. Donc ça c'est très important à souligner. Parce que si vous l'interprétez comme s'il y a des gens qui sont destinés à être condamnés, destinés à être sauvés, là, la Bible ne colle plus. La Bible doit avoir une cohérence parfaite. Je laisse le libre choix. Et il me semble la meilleure compréhension, c'est de voir de cette manière que ce jugement a été inscrit dans ce livre d'Enoch, ce d'épigraphe, qui ne faisait pas partie à l'époque du Saintes Écritures, mais était connu, c'était exact dans le judaïsme. Mais maintenant, Jude l'inclut cette référence dans le Nouveau Testament que nous avons maintenant, cette référence à livre d'Enoch. Ça, c'est important à souligner. Donc, le jugement futur est annoncé prophétiquement, comme nous venons de le souligner. Et vous savez, Enoch, en parlant pas de livre pseudépigraphe, mais Enoch a vécu avant le déluge, le vrai Enoch, n'est-ce pas? Et Enoch, il est dit qu'à 65 ans, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie, l'âge de la retraite maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour Enoch? Il a eu un fils. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? À 65 ans, il a engendré Méthusala. La Bible ne dit pas comment s'était passé l'accouchement, si c'est douloureux ou pas.
C'était pas la retraite.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'important est changé dans la vie d'Enoch. Depuis la naissance de Méthusala, il est dit que Enoch marcha avec Dieu. Et quelle est la fin de sa vie? Il a été enlevé. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça nous est laissé dans un sens qu'il y a des événements dans notre vie qui est marquant. Le Seigneur se sert pour stimuler notre marche avec lui. Et n'oubliez pas qu'Enoch a vécu dans un milieu décadent, moralement, spirituellement. Mais dans ce monde de ténèbres, Enoch était la petite lumière qui marchait avec Dieu. Et cet événement de naissance de Méthusala, c'était un point, comme un coup de fouet pour moi, qui l'a stimulé. Et la Bible dit « marcha avec Dieu ». Et le verbe « continuellement marchant avec Dieu » jusqu'à ce qu'il soit enlevé après. Et c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà deux arguments forts. Les jugements passés nous confirment que la même chose se déroulera dans l'avenir. Et cette condamnation écrite depuis longtemps marque tout simplement que c'était prophétiquement déjà vu depuis longtemps, le second venu de Christ. avec ses 5 milliards en gloire et cette venue pour juger le monde et établir le règne millénium après. Il s'est vu dans cette prophétie-là. Et le jugement de ces impies est vu là. Et maintenant, c'est inclus dans le Nouveau Testament. Et ça, je n'ai pas le temps là, mais ça sera peut-être la prochaine fois, j'aborderai que les livres, ceux d'épigraphes ou les livres apocryphes, ne sont pas des livres inspirés de Dieu. Mais certains auteurs, par exemple Jude, Pierre, fait usage et l'inclut dans leurs écrits et fait partie maintenant du canon du Nouveau Testament. Je vais vous citer certains exemples, hein, la semaine prochaine, là-dessus. Ce ne sont pas des livres inspirés de Dieu, mais les auteurs du Nouveau Testament, certains, font usage et incluent en donnant une illustration pour des arguments, et ça fait partie du canon du Nouveau Testament. Et ça, c'est des petites nuances à bien faire attention à la différence, hein, là-dessus. Maintenant, nous continuons donc la description des faux docteurs par rapport à ce qu'ils font. On va aller rapidement. Verset 8, on va revenir dans Jude, verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, donc on vient de parler des gens de Sodome qui faisaient pareil que les anges, hein, ces hommes aussi, par leur rêverie, souillent païrement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Donc ici, ces hommes aussi souillent leur chair en parlant de l'immoralité sexuelle. Et je vous ai cité tout à l'heure Romains, on peut regarder Romains, s'il vous plaît, chapitre 1, verset 24, verset 26 et 27. Quelqu'un peut le lire? Et aussi Éphésiens 4, 19. Éphésiens 4, 19 nous donne une description du mode de fonctionnement des gens non régénérés. Éphésiens 4, 19 et Romains 1, verset 24, verset 26 et 27. Voilà. Vous voyez, donc c'est ce que nous avons souligné tout à l'heure. Quand on rompt l'ordre éthique établi par Dieu, c'est attire le jugement de Dieu dans le sens qu'ils vont être entraînés par ce courant qu'ils ne peuvent plus résister parce que c'est ce qu'ils voulaient. Regardez Éphésiens 4, 19 encore. Éphésiens 4, 19 qui nous souligne ce mode de fonctionnement, je dirais, des gens qui marchent selon leur pensée uniquement quand ils ne sont pas nés de nouveau, régénérés. Éphésiens 4, 19. On peut lire même à partir du verset 17, mais juste verset 19. Ayant perdu tout sentiment, on parle de sens moral, ils se sont livrés au dérèglement, aux dissolutions, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, c'est de ce qui était décrit dans verset 8. Verset 4 maintenant, revenons dans Jude. Je vous ai parlé la dernière fois avant de terminer cette règle, et vous pouvez le vérifier, que quand vous avez deux substantifs, le premier substantif précédé d'un article défini, et les deux substantifs séparés par un kai, le e, la conjonction e, alors là, ça parle d'une même personne. Et ici, nous avons vu donc que quand il dit renier le seul maître, Dieu et Seigneur Jésus-Christ, maître et Dieu, donc dans ce sens qu'il rejette l'autorité suprême de Jésus-Christ, vous pouvez compléter, mais il rejette aussi Dieu, sa divinité. Vous pouvez faire voir l'autorité suprême de Jésus-Christ, Philippiens 2, versets 9 et 10, on parle. Après la résurrection, voilà la réalité, ce qui se passe. Philippiens 2, versets 9 et 10, quelqu'un peut le lire? Donc ces faux docteurs renient l'autorité ou rejettent l'autorité suprême de Jésus-Christ et rejettent la divinité de Jésus-Christ. Et ce que je vous ai dit, maintenant la théologie libérale depuis le 19e siècle a inondé les différentes écoles bibliques, les facultés. Et dans cette théologie-là, on nie ces deux choses. L'autorité suprême de Jésus-Christ, l'autorité de sa parole implicitement, ainsi que sa divinité. Philippiens 2, 9, 10, parlant de l'autorité suprême de Jésus-Christ après la résurrection. Voilà, vous voyez, ça c'est la réalité. Vous me dites, mais oui, mais ce que je vois maintenant, c'est pas tout à fait ça. Entre le semblant que nous voyons et la réalité, quand Dieu le dit, c'est ce qui est. Il y a un usurpateur pour l'instant qui domine apparemment, mais son temps est compté. Son temps est compté. Mais au-dessus de cela, c'est Dieu qui contrôle, qui dirige tout. Et tout, un jour, viendra se soumettre, comme il est écrit, non seulement dans le monde céleste, mais sur la terre et même sous la terre, qui va obéir au Seigneur Jésus-Christ, littéralement. Verset 8, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils méprisent l'autorité. Ils méprisent l'autorité. Et je dirais ici, l'autorité humaine. Mais verset 8 dit aussi qu'ils injurient les gloires. Non seulement ils rejettent l'autorité humaine, mais aussi, je dirais, une diffamation de ces êtres angéliques. Vous savez, on n'a pas le temps d'en parler, mais les anges ont joué un rôle important dans l'histoire du peuple d'Israël. On parle de l'ange de l'Éternel, cette théophanie qui apparaissait assez souvent dans leur histoire, n'est-ce pas? Et les anges, pour les Juifs, hein, pieux surtout, ont une importance capitale dans leur histoire, dans leur vie. Et ici, ces faux docteurs injurient ces êtres angéliques. Et regardez, pour pointer du doigt que c'est pas bien ce que font les faux docteurs, ils vont citer quelque chose que nous ne voyons jamais dans l'Ancien Testament concernant l'archange Michel et Satan, concernant les disputes du corps de Moïse. Regardez ça dans le verset 9. Verset 9 de Jude. Quelqu'un peut le relire. Hein? Donc c'est un argument que Jude utilise, tout simplement pour ces faux docteurs qui injurient les gloires. C'est diffamation de ces êtres, je dirais, angéliques. Et même l'archange Michel, qui est le plus important dans la hiérarchie des anges, n'ose même pas injurer Satan. N'oubliez pas que Satan est le chef des anges déchus. Voyez, mais il s'en remet à Dieu pour régler l'affaire. Voyez. Et donc cette attitude de l'archange Michel vis-à-vis de Satan, un argument pour appuyer tout simplement le comportement pas correct de ces faux docteurs. Parce que n'oublions jamais, pas dans notre culture européenne, mais dans la culture, dans le judaïsme, c'est important la place des anges dans les histoires. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, il va comparer Jésus-Christ par rapport aux anges et sa supériorité. Donc il y a une grande description sur les anges pour dire que ça joue un rôle très important dans l'histoire du peuple israélite. Donc c'est important pour eux le respect de ces êtres-là. Ce n'est pas adorer, le respect. Donc c'est important. Verset 16. Regardez ce qui est décrit par Jude dans le verset 16. Qui sont ces faux prophètes? Il est décrit comme des gens qui murmurent. Nous venons de voir 1 Corinthiens 10 tout à l'heure, hein, le murmure, les plaintes injustifiées dont Dieu ne tolère jamais. Et ici, vous savez, ça peut inclure pour chaque mal, n'est-ce pas, on accuse Dieu. Oh, si Dieu est là, pourquoi les injustices sociales? Oh, si Dieu est là, pourquoi il ne peut pas éviter la guerre? Hein, murmurer comme cela. Oh, si Dieu était là, pourquoi les souffrances? Il y a plein de choses. Donc, ils murmuraient en accusant Dieu pour chaque mal, n'est-ce pas? Et non seulement qu'ils murmurent, mais ils se plaignent de leur sort. Donc, c'est des gens qui se plaignent pour tout et rien. Donc, c'est ce que nous le dit le texte. Donc, comme si Dieu n'est pas présent et prendre soin d'eux. Et ils diffusent ces enseignements, ces choses qu'ils vivent eux-mêmes. Et c'est ça qui est le danger dans l'Église. De douter de la bonté de Dieu, de faire douter des actes de Dieu envers ses enfants. Il est contaminé de cette pensée, de cette mauvaise pensée. C'est interdit. Et l'épître de Jude relève ces caractères qui sont à dédaigner. Vous allez voir, la semaine prochaine, pour terminer le livre, en contrepartie à partir du verset 14, nous allons voir par contre comment réagissent, pardon, pas verset 14, à partir du verset 20, on va voir les caractères qui sont des vrais chrétiens. Comment ils se comportent par rapport à ces mauvais caractères de ces faux docteurs. Verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit aussi concernant eux? Non seulement ils murmurent, ils se plaignent de leur sort, mais qu'est-ce qu'ils font aussi? Et oui, marchent selon leur convoitise. Vous savez, nous aussi, quand on n'avait pas encore été touché par la grâce de Dieu, quand on n'était pas régénéré, qu'est-ce qui nous dirigeait? C'est notre propre pensée, nos pulsions, nos penchants naturels. La Bible le dit. Éphésiens chapitre 4, lisez-le, hein, verset 17 jusqu'à 22. Parle que nous fonctionnons dans nos pensées, hein, qui est corrompu, qui est dépravé, hein, le mot peut-être sorti ce matin, et nous fonctionnons en conséquence de cela. Mais quand nous sommes régénérés, nous ne fonctionnons plus comme cela. L'Esprit de Dieu qui nous dirige. Et ici, il parle des paroles hautaines, ça veut dire mettre leur raison au-dessus même de la parole de Dieu. Voyez, quand vous rejetez l'autorité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, qui est l'autorité pour vous? C'est votre propre parole. Et vous le mettez au-dessus, et même, je dirais, peut-être même place que la parole de Dieu. Hein, et c'est comme cela qu'il dissémine cette contamination des faux enseignements qui sont dangereux pour la foi des chrétiens. Il parle, verset 16, des motifs d'intérêt. il va admirer les gens tout simplement parce qu'il peut me rapporter quelque chose. C'est pas de vrai amour. Le vrai amour se donne, se sacrifie, n'est-ce pas? Agapé, un amour volontaire, décisif, mais qui est prêt à sacrifier beaucoup de choses. Mais eux, c'est pas ça, c'est un motif, un mobile derrière qui est toujours des intérêts personnels. Et ils sont, verset 19, auteurs de division. Division, diviser les chrétiens dans l'église. Ça, c'est ce qu'ils font. Donc, nous avons vu comment ils sont décrits, donc, par ce qu'ils font, mais maintenant par ce qu'ils sont. Je vous ai mis un peu comme cela. À trois reprises dans le verset 11, il est question de malheur. Quand il y a un malheur, c'est la malédiction, n'est-ce pas? Et il va parler, donc, ils sont maudits à cause de quoi? Donc, j'ai mis ici, regardez le verset 11, maudits à cause de, ils ont suivi la voie de Caïn. Pour comprendre la voie de Caïn, regardez Genèse chapitre 4, verset 16. De quoi s'agit-il? Genèse 4, verset 16. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Voilà. Il a tué son frère. Et il est dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. À mon avis, c'est ça le chemin de Caïn, de laisser Dieu et de ne plus tenir compte de Dieu dans sa vie. Et le mot s'éloigner, c'est apostasia. C'est l'idée de l'apostasie, de l'abandon, l'éloignement du chemin de Dieu. Et c'est ce qu'a fait Caïn. Il s'est éloigné de la face de l'Éternel, il s'est pris en charge et dirigé sa propre vie comme bon lui semble. Dieu ne compte plus pour lui. Et c'est, j'ai mis chemin de l'apostasie. Chemin pour s'éloigner de l'Éternel, nous est dit Genèse 4, 16. Verset 11, il nous est parlé de l'égarement de Balaam ou de l'erreur de Balaam selon Darby. Vous pouvez voir l'histoire dans Nombre 22, que Balaam, qu'est-ce qu'il avait fait? Le roi de Moab, Balak, veut lui donner des présents, des richesses, mais dans quel seul but? Le seul but de maudire Israël. Maudire les Israélites, n'est-ce pas? Mais Dieu dit non, tu ne maudis pas ce peuple. Et il a insisté. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il exerçait un service spirituel pour gagner de l'argent. Donc c'est ça l'erreur de Balaam ici, c'est d'exercer un service spirituel pour gagner de l'argent. Comme dit notre frère, il attendait des présents de Balak pour maudire le peuple, pour gagner ça. Et verset 11, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Qu'est-ce qui s'était passé? Corée, dans le chemin du désert, donc, avait résisté à l'autorité qui était mise par Dieu pour diriger ce peuple. Il y avait deux personnages clés dans l'histoire de la sortie d'Égypte pour ce peuple. Donc, quels sont ces deux hommes? Moïse et Aaron. Quelles sont les deux fonctions de ces deux hommes? Eh oui. Donc, Moïse, si vous voulez, c'est le porte-parole de Dieu au peuple. Et Aaron, c'est qui? Le souverain sacrificateur. Ça veut dire, c'est lui qui permet que le peuple puisse se présenter devant Dieu moyennant un sacrifice de substitution. N'est-ce pas? Donc ici, à mon avis, la révolte consiste tout simplement en cet rejet de l'autorité de Moïse, qui est le porte-parole de Dieu. Ça veut dire rejet de la parole de Dieu. Et dans le sens rejet de Aaron, c'est rejet du sacrifice de substitution. Parce que rappelez-vous qu'une fois par an, il y a le sacrifice de grande expiation où le souverain sacrificateur entre une seule fois dans le lieu très saint pour opérer le sacrifice pour savoir si la faveur de Dieu sur le peuple encore cette année, est-ce que ça va passer ou pas. Et donc Aaron qui représentait cela. Donc ces deux offices qui sont résistés par Corée, parce que c'est Corée qui veut même s'initier, si vous voulez, qui va prendre ces offices-là. Et pour aller très vite, ils vont utiliser ce qu'ils sont donc maudits à cause de ces voies qu'ils ont suivies, mais des appellations en comparant avec des choses de la nature. Il parle ici des écueils dans vos agapes, verset 12. Vous suivez dans votre document. Et là, j'ai regardé le grec. Ici, l'écueil veut dire spilade en grec, c'est tache. Et le même mot, dans sa forme verbale, est souillé dans le verset 23 de Jude. Donc ça veut dire quoi? C'est l'idée de contaminer les autres. Donc vous voyez, ça, l'idée d'une pâte contaminée par un levain, c'est exactement l'idée est là. Donc ces faux prophètes, ces faux docteurs, ils rentrent dans des choses importantes dans la vie de l'Église, hein, les repas agape, et ils vont contaminer même ce moment important dans la vie de ces chrétiens. Ils sont des levains pour contaminer, pour souiller les autres par leur présence là-dedans. Verset 12, nuée sans eau. Ça, il évoque quoi? Une nuée, normalement, si c'est de vrai, qu'est-ce qui doit apporter cette nuée? De la pluie. Donc, il n'apporte pas un rafraîchissement spirituel. Regardez Hébreux 4, s'il vous plaît. Ou combien nous devrions être comme il est dit dans Hébreux 4, concernant de porter des fruits. Pardon, Hébreux 6, pas 4. Hébreux 6, verset 7 et 8. Quelqu'un peut le lire? Voilà. Vous voyez l'image ici dans la pluie qui arrose la terre. Hein, la terre imaginée comme les cœurs qui entendent la parole de Dieu. Et il est dit que quand ils produisent hein, des bonnes choses, hein, ils participent à la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Mais quand elles ne produisent pas comme il faut, comme on s'y attend, c'est pas la peine qu'ils existent, il faut les mettre au feu. Ici, l'enseignement de ces faux docteurs n'apporte pas un rafraîchissement spirituel comme l'image utilisée dans Hébreux ici, vous voyez. La terre abreuvée par la pluie qui tombe produit une herbe utile. C'est utile à ceux pour qui elle est cultivée. Donc, vous savez, vous pouvez entendre d'un grand théologien, quelqu'un qui sortait d'une faculté de théologie, rempli de connaissances. Ces gens qui abondent dans la théologie libérale, comme je soulignais là, par leur enseignement, ils ne rafraîchissent pas les cœurs des gens qui les entendent. Peut-être qu'ils leur présentent beaucoup de connaissances, pour la tête, oui, mais pour la vie, le cœur, pas souvent. Et souvent, on attend de ces gens qui sont formés d'arroser l'Église, n'est-ce pas? Mais ils ne les arrosent pas par leur enseignement. L'intérêt ici, c'est de savoir rester toujours proche de la parole de Dieu. Peut-être que c'est toujours la même chose qui est répétée, mais la parole de Dieu est efficace et peut toucher notre cœur et nous donner vie. Parce que la parole de Dieu est vie, est vivante. Et souvent la connaissance, quand on s'éloigne vraiment de la parole de Dieu, ne nourrit pas. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est comme si c'est une nuée sans eau, ça ne nourrit pas. Ça remplit la tête de plein de connaissances, mais n'apporte aucun rafraîchissement au niveau du cœur. Verset 12, poussé par les vents. Poussé par les vents. Ici, j'ai fait une allusion, c'est quand vous, le vent souvent est utilisé comme symbole du Saint-Esprit. Acte 2, hein, quand vous voyez le vent qui est arrivé dans cette chambre haute, et symbolise la présence du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les vents, le mot utilisé par le vent, c'est la même chose que le mot utilisé par esprit. C'est pour ça que je me permets de déduire que cette théologie destructrice, qui nie la parole de Dieu, ne vient pas de la raison humaine, mais vient même des esprits démoniaques. Et ça, il faut faire très attention. C'est pour ça que la Bible parle, hein, Paul à Timothée, attention d'éviter des doctrines de démons, parce que c'est des doctrines qui rejettent l'autorité de Christ et de sa divinité, de sa personne, et venaient que des raisons humaines qui, par derrière, stimulées par des puissances même démoniaques. Et ça, c'est très dangereux pour l'Église. Et reste 5 minutes. Leur état de mort est décrit, verset 12, la dernière phrase, leur état de mort est décrit, des arbres d'automne s'enfuient. Qu'est-ce que vous attendez à l'époque en Israël quand c'est l'automne? Vous attendez des fruits. Donc la mort est décrite de deux manières, non seulement que ça ne porte pas de fruits, mais ils sont déracinés dans un sens aussi que sans racines. Donc il est mort deux fois, comme dit le texte, n'est-ce pas? Il est mort deux fois dans le sens qu'il ne porte pas de fruits attendus à haute saison de récolte des fruits, mais il est mort dans le sens aussi qu'il n'amène pas de racines pour tenir son existence afin de porter des fruits. Donc vous voyez, sans racines spirituelles, donc application pour nous, pas de base biblique. C'est leur raison qui prévaut et qui se place au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. Et verset 13, « Vagues rejetant les écumes de leurs impuretés ». Ils ne produisent que des impuretés. Et des astres errants ou étoiles filantes. Ils sont considérés comme des astres errants et des étoiles filantes. Vous savez, pour ceux qui font la navigation, c'est que c'est pas les étoiles filantes qui vont leur guider à bon port. Les météores, j'ai lu hier, les météores, ce sont des corps célestes qui ne suivent pas des trajectoires bien définies. Après, ils disparaissent dans le ténèbre. Tandis qu'il y a les corps, hein, c'est heureusement la gravitation qui nous maintient tout, hein, selon des trajectoires définies, les corps, pour que ça ne se télescope pas. Mais les météores, ils n'ont pas de trajectoire, ils arrivent, ils disparaissent, comme ça. Et c'est un peu l'image ici que ces gens-là veulent être comme des guides. Ils ne peuvent pas être des guides. Un astre, un météore, vous pouvez un instant avoir des grandes lumières, et après vous ne voyez plus rien. Si vous voyagez dans la nuit, ce n'est pas avec des étoiles filantes que vous allez vous guider. Surtout à l'époque. Mais les navigateurs se fient avec les étoiles fixes. Et donc ici, ils ne sont pas des vrais guides. Ce sont des trompeurs et qui vont tromper les chrétiens par leur enseignement. Donc, il faut se méfier. Et pour terminer, le verset 19 et le verset 16, ils sont considérés comme des hommes sensuels. Des hommes, comme je dis, fonctionnent parce qu'ils ne sont pas régénérés. Selon leurs pensées, selon leurs instincts et leurs penchants, ils fonctionnent comme cela. Il est dit aussi qu'ils n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Comment peut-on reconnaître un vrai enfant de Dieu? Romains 8, 9. Eh oui. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais ceux qui sont nés d'en haut, ils ont l'Esprit de Dieu. Et c'est comme cela qu'on le reconnaît. Ils sont nés de nouveau. Romains 8, 9 pour terminer. Donc vous voyez, c'est allé très vite. Vous avez quand même les supports. Mais pour vous montrer que Jude n'attaquent pas des doctrines de ces gens, mais par leur comportement. Ils vont être stigmatisés par leur comportement et aussi par le sort qui les attend, le jugement de Dieu. Et nous avons vu que ce jugement est confirmé dans l'avenir, comme le jugement a été exécuté dans le passé, ça sera de la même manière pour eux dans l'avenir. Et prophétiquement, dans la prophétie d'Enoch, il est vu aussi ce jugement des impies, pourtant Enoch vécut avant le déluge. Et vous voyez déjà ces saintes myriades parlant de la venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ avec ses saints et qui vont juger ceux qui rejettent Dieu et vont établir le règne du millénium sur terre. Et tout ça, c'est dans cet épître. Pour terminer, la semaine prochaine, donc j'ai fait les 4 séances, je terminerai en comparaison de ces faux docteurs, des comportements des vrais croyants, et j'aimerais qu'on regarde ensemble les doctrines implicitement qui sont dans ce livre, en observation. Donc, voir les comportements des vrais croyants et quelles sont les doctrines qui sont enseignées dans ce livre, dans cet épître de Jude. On terminera par ça et j'arrête là l'épître de Jude. Je vous ai dit, moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses parce que je croyais connaître le livre de Jude, mais pas du tout. Il y a des choses que je ne savais pas du tout et en approfondissant là, vous voyez la richesse de la parole de Dieu.